On a la chance aujourd'hui de commencer un nouveau cycle de prédication. On va tous ensemble, pendant un certain nombre de près de semaines, survoler, commenter l'évangile de Marc. C'est bien de commenter un évangile. Ça raconte qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit. Nous sommes vraiment à la source. Alors, Marc, en introduction, on connaît beaucoup de choses, la tradition est unanime sur ce point. C'était en fait le jeune homme, nous pensons que c'était le jeune homme nu qui s'enfuit lorsque Jésus est arrêté à Gethsémané. Il appartenait à la famille qui accueillait les premiers chrétiens de l'église de Jérusalem après la Pentecôte. Ensuite, nous savons qu'il a, par les actes des apôtres, qu'il était le neveu de Barnabas et qu'il a participé pour la moitié au premier voyage missionnaire de Paul. Et après, toujours par les actes à la fin, nous savons qu'il était à Rome, à côté de Paul, pour l'aider, pour collaborer avec lui dans la diffusion de l'évangile, dans l'enseignement chrétien auprès des églises de Rome, quand Paul était en liberté surveillée, attendant son jugement. La tradition nous dit en fait que les chrétiens de l'église ou des églises de Rome ont demandé à Marc de faire un écrit des faits et des paroles du Seigneur. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, toujours la tradition, Marc était le secrétaire de l'apôtre Pierre, son compagnon, si vous voulez, d'équipe. Et donc, nous disent certains témoins très très anciens, il a repris, pas toujours dans l'ordre d'ailleurs, le contenu des enseignements de Pierre. De Pierre ? Oui, mais lorsqu'il le faisait, il était à Rome, Pierre, comme Paul. Donc en fait, il reprenait une partie des enseignements. Et à travers de Marc, nous avons beaucoup de l'enseignement de Pierre et donc de ses souvenirs, de ce qu'il disait de Jésus qu'il avait côtoyé en tant qu'apôtre. Donc lisons cet évangile de Marc avec respect, bonheur. Nous touchons la source là même de notre Seigneur, de notre Sauveur. Les premiers versets du chapitre 1 sont tellement riches que je choisis aujourd'hui, non pas de faire le chapitre 1, mais uniquement les 8 premiers versets. Parce que ça suffit, c'est déjà tellement dense, il y a tellement à dire, tellement à apprendre, tellement à louer notre Sauveur. Donc je vous lis ces versets, donc dans la seconde 21. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voilà ces premiers versets. Si vous avez un titre au-dessus marqué « Ministère de Jean-Baptiste » ou autre chose, vous pouvez le lire, mais ce n'est pas dans la Bible. C'est l'éditeur qui essaie de faire un plan et donc de permettre aux gens de retrouver des parties. En fait, dans ma prédication, elle a deux grandes parties. Parce qu'en fait, à partir du verset 2, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, jusqu'au verset 3, les versets 2 et 3, soit on peut le rattacher au verset 1, et c'est une lecture, soit on peut le rattacher au verset 4 à 8, et c'est une autre lecture. Donc je vais vous proposer les deux lectures. En fait, les deux lectures sont complémentaires. Elles ont la même perspective, elles disent la même vérité. Donc je pense qu'il serait dommage de se priver d'une connaissance encore plus fouillée, si vous voulez, plus exacte de ce qu'a voulu dire Marc. Je rappelle que c'est absolument stratégique puisque c'est le commencement de l'évangile. Ne lisons pas le mot « voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ » comme étant simplement l'idée « je commence mon livre, c'est le début de mon histoire ». Vous allez voir qu'il y a un tout autre sens. Donc je répète bien, les deux lectures que l'on va faire ne s'excluent pas, elles sont complémentaires. Et nous respectons donc les deux interprétations. Alors la première, elle fait dire qu'en fait le selon qui est écrit dans les prophètes concerne les versets 4 à 8. Donc c'est pour l'annonce prophétique, si vous voulez, à l'avance, fait par Ésaïe, notamment, hein, que Jean-Baptiste serait ce précurseur qui annoncerait la venue du Messie, Jésus-Christ. Premier verset. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. » Dans le texte grec, il n'y a pas « voici », c'est abrupt, mais c'est percutant. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ça commence comme ça, comme une flèche qui vous est lancée, ou un éclair. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Le mot grec pour dire commencement a plusieurs sémantiques, plusieurs sens, mais ici, très clairement, on parle de commencement, de début, si vous voulez. Le mot grec veut dire exactement ce qui est mis en avant. Ce qui est en avant. Le premier sens que l'on va retenir de ça, ce qui est mis en avant au début de l'évangile de Marc, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Aucun homme n'est semblable à lui. Aucune créature n'est semblable à lui. La Bible me dit que Jésus-Christ a créé le monde entier. Tout l'univers. La Bible me dit que Jésus-Christ fait fonctionner et contrôle tout l'univers. La Bible me dit que c'est Dieu qui est descendu sur terre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Est-ce que vraiment, dans ta vie, tu le crois? Mais avec tout ce que ça pèse, tout ce que ça implique. Si vraiment c'est Jésus qui te sauve, et si Jésus est absolument unique, il est le créateur de l'univers, non seulement de toi, mais de tout, il maîtrise tout. Est-ce que vraiment on le croit? Et comme tu le rappelais au début dans ton introduction, quand les temps vont mal, oui, rappelons-nous, Dieu est souverain. Et Jésus-Christ maîtrise le cours de cette création, le cours de cette terre, le fonctionnement de cette terre, le cours de ta vie aussi. Si ça va mal dans ta vie, si tu ne vois pas clair, regarde. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Regarde à la personne de Jésus-Christ. Médite, méditons ce qu'il a fait. Ce n'est pas une confession de foi qu'on adhère, c'est une personne. Et elle a agi, elle a fait des événements, elle a accompli des actions extraordinaires qui ont toujours cours. Et il agit toujours aujourd'hui et il intervient. Jésus-Christ. Le premier-né, le premier de la création. Quel rocher, quel sauveur nous avons. Commencement de l'évangile. C'est un mot qu'on va essayer de définir au cours de cette prédication. Mais dès le début, dans ce chapitre, Marc nous donne l'objet de l'évangile. La définition de l'évangile. Prenez les versets 14 et 15 du chapitre 1. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile, c'est l'annonce, la diffusion, l'impaction dans le monde que le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Le mot proche, c'est aiguisé en français. Hein. Ça pénètre. Dès que ça touche, ça pénètre. Ce n'est pas un langage hostile. Une affirmation spirituelle religieuse. Ça veut dire que concrètement, le règne de Dieu, parce que c'est le même mot que royaume, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est proche de toi. Alors bien sûr, il y a un sens immédiat. C'est la personne de Jésus. Il est le roi. Oui, mais là, il parle du royaume et du règne. Attention, il ne parle pas de l'auteur du roi, du règne, il parle du règne. Le royaume, ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu est proche de ce monde encore aujourd'hui. Il le touche, il l'impacte. Voilà ce qu'il dit au tout début de son évangile. La définition de l'évangile, c'est ça. Des fois, on réduit l'évangile à ce qui s'est passé à la croix et c'est fondamental. C'est la base du salut, c'est non seulement une base, c'est ce qui permet le salut. C'est Jésus sur la croix, évidemment. Mais attention, vous avez vu le texte. L'évangile n'est pas l'évangile de la croix, n'est pas l'évangile du sang versé. L'évangile est celle de l'évangile de Dieu et de son règne, rendu proche, immédiat, qui impacte le monde déjà maintenant. C'est ça l'évangile qui est marqué ici, qui est annoncé par Marc dès le début de son évangile. C'est absolument fondamental. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle dans la traduction second 21. L'évangile, cette bonne et heureuse nouvelle de Jésus-Christ. On lit trop souvent ces mots Jésus-Christ. Bah, c'est le nom de Jésus, puis Jésus notre Seigneur, Jésus-Christ, le Christ, le Seigneur. Enfin, bon, c'est très bien, il faut appeler les personnes par son nom. J'espère qu'on les aime, évidemment, qu'on le dit. Mais attention, il y a beaucoup plus que là. Que cela. Jésus-Christ, c'est l'association de deux noms projets de vie, deux fonctions de Jésus-Christ. Jésus, en hébreu, ça veut dire sauveur. Donc, l'évangile de Jésus, sauveur du monde. Lisez le début de l'évangile de Matthieu, il nous dit qu'il libérera son peuple du péché. Sauveur du monde, réorganisateur du monde. Je vous ai toujours dit que dans l'Antiquité, le mot sauver a deux sens qui sont complémentaires. Le premier, c'est sauver d'une catastrophe, et le deuxième, c'est réparer, réorganiser le monde pour qu'il fonctionne. La cité. Voilà. L'évangile de Jésus. Et après, il est marqué Christ. Christ, c'est le nom grec, hein, Christos, qui veut dire ou un missionnaire en hébreu, machia. Hein. Missionné, titulaire d'une fonction, et nous la connaissons dans la Bible, de conduite du peuple. Il est notre roi, notre conducteur, notre prêtre aussi, hein, notre médiateur. Il conduit le peuple à quoi faire? À votre avis, à régner, à accomplir le règne de Dieu sur terre, à gérer cette terre à la gloire de Dieu. Je rappelle que c'est le premier commandement du Seigneur. Il n'est pas effacé. Au tout début Genèse, il crée l'homme pourquoi? Pour gérer la terre. Vous croyez que c'est plus vrai maintenant? Mais si, c'est toujours vrai. Tu as été mis sur terre pour gérer la terre. C'est toujours vrai. Jésus-Christ, ça veut dire ça. Ton sauveur et ton roi, pour que toi, son sujet, évidemment, tu accomplisses ta fonction, ta part de service, si vous voulez, qui concourt à l'établissement du règne de Dieu sur cette terre. Fils de Dieu, oh, combien de fois on le dit, ça devient un langage religieux. Mais arrêtez-vous, arrêtons-nous. Qu'est-ce qu'on dit au travers de fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Un père engendre un fils, ça veut dire quoi? Il le met au monde, en race humaine ou une fille, hein, peu importe. Hein, bon. Fils de Dieu, ça veut dire, mais c'est énorme. Et c'est jamais dit, mais c'est vrai. Ça veut dire Dieu engendré en forme d'homme. C'est l'hébraïsme, comme fils de la lumière, etc. Fils de Dieu. Dieu engendrait en forme d'homme, si je respecte la culture de l'Antiquité, tout simplement, je ne fais pas de théologie. Dieu engendrait en forme d'homme. Vous rendez-vous compte? Mais c'est énorme comme annonce. C'est énorme. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Dieu engendrait en forme d'homme. Quel sauveur nous avons! On a vraiment, on ne peut que le remercier, l'adorer, l'aimer, le servir. Parce qu'il a dit ce même maître, seigneur, roi, Dieu engendrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon joug est facile. C'est quand même extraordinaire. Un tel roi, notre Dieu créateur, le maître de tout l'univers, qui a tellement de bienveillance envers les humains que son joug est facile à porter. C'est un joug quand même, hein? C'est un joug quand même. On n'est pas là pour uniquement chanter. Un joug, dans l'Antiquité, c'est un collier de bois ou de cuir ou autre chose qui ceinturait le cou, hein, et qui forçait le bœuf à pousser l'arrière ou des fois même l'homme. Bon, certains esclaves, un joug. On est quand même fait pour servir Dieu. Hein? On est quand même fait pour gérer cette terre selon sa volonté. Les versets suivants, donc conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits. » Selon cette lecture, donc, c'est le rappel prophétique de textes de l'Ancien Testament et notamment d'Ésaïe, qui avait annoncé à l'avance, donc 8 siècles auparavant, la venue de Jean-Baptiste, donc ce précurseur qui viendrait annoncer, préparer les cœurs à accueillir Jésus-Christ, ou tout au moins les sensibiliser. C'était annoncé 8 siècles à l'avance. Et effectivement, quand je regarde l'évangile de Jean, Jean-Baptiste, là maintenant, se définit, non pas Jean l'apôtre, se définit comme étant celui qui crie dans le désert. Il dit que cet oracle le concerne. Il le reconnaît. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. On lit ça et ça devient même un automatisme. Mais en fait, vous avez l'énoncé de tout homme, la définition de tout homme. Tu adviens sur terre pour quoi faire ? Pour remplir une fonction. Jean, donc Jean le Baptiste, hein, parut et il immergeait dans la rivière, et là, dans un endroit désertique, hein, il pratiquait un baptême, une immersion de repentance dans la perspective du pardon des péchés. C'était sa fonction reçue. Toi et moi, aujourd'hui, tu es advenu sur terre pour remplir ta fonction reçue. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, Jean-Baptiste, un prénom. Ah, il s'appelait comme ça, Jean-Baptiste, alors. Ah, pas du tout. Jean-Baptiste s'appelait Jean. Hein, une évocation du pardon, de la grâce, de la bienveillance de Dieu. Et puis, comme sa fonction était de pratiquer, d'enseigner la repentance au travers d'une immersion dans la rivière, le fleuve du Jourdain, eh ben, on a dit, son nom projet de vie, hein, comme Jésus-Christ, les deux projets de vie, eh ben, Jean le baptiseur, Jean, celui qui immerge. Et puis, petit à petit, eh ben, c'est devenu Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et puis Jean-Baptiste, et c'est devenu un nom, et maintenant même un prénom composé. Mais non, en fait, c'est un nom accolé à sa fonction. Jean le Baptiseur. Aujourd'hui, devant Dieu, quel est ton nom ? Nous recevons tous un nom projet de vie. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, le caillou blanc, sur lequel est inscrit un nom, qui est propre à chacun. Quelle est ta fonction reçue de Dieu ? Tu dois l'accomplir, parce que nous sommes installés sur terre par Dieu, nous ne sommes pas venus par hasard. Dieu nous a fait venir sur terre à un moment donné pour impacter l'environnement où tu vis, du règne de Dieu, au travers de tes dons, tes talents, ce que Dieu t'a donné comme don, ta fonction. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais que lorsque je remplisse ma fonction, j'ai autant de gens qui l'acceptent, qui viennent à moi. Enfin, je veux dire, pas, mais je prends l'exemple là de Jean-Baptiste. Il avait du succès, si vous voulez. Il était efficace. Ben, j'aimerais bien être efficace. Je ne suis pas sûr que je sois efficace. Vous voyez ? Eh bien non, la parole de Dieu dit que Pierre a tort en ce moment de dire ça. C'est moi, Pierre. Parce que si tu fais la fonction que Dieu t'a donnée, tu ne le vois pas toujours, mais tu es efficace. On est créé, on est équipé, on reçoit des talents pour être efficace dans sa fonction. Des fois, on chante dans nos chants sans rien à moi. Mais désolé, ce n'est pas vrai. La Bible m'enseigne que je suis sauvé et recréé par Christ à la croix. Et il me donne des talents, il me confie des talents à moi de les mettre en action, d'agir, de remplir ma fonction. Et par le Saint-Esprit, par la vie plénière divine créatrice, par cette vie éternelle que je reçois déjà maintenant, je suis utile et efficace, même si pour Dieu je suis inutile parce qu'il n'a pas besoin de moi en tant que tel. Je ne suis pas indispensable pour Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes des gens efficaces. Jean-Baptiste a paru, il a rempli sa mission, il était efficace. Eh bien, nous devrions aujourd'hui Si nous remplissions vraiment, nous engageons pour le Seigneur, nous quittions notre zone de confort, elle est là la zone de confort à quitter. Te donner, passer ton existence à remplir ta ou tes fonctions que le Seigneur t'a confiées. Alors là, oui, tu es efficace, même si ça ne se voit pas. Je dis que ça ne se voit pas parce que d'autres versets bibliques le disent, mais ce n'est pas l'objet de la prédication aujourd'hui. Mais ça ne se voit pas parce que c'est du domaine du règne de Dieu et par rapport à un monde qui fonctionne avec un autre esprit, ça ne se voit pas. Ça se voit par contre au niveau des puissances spirituelles. C'est ce que dit la Bible. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Mais quelle beauté dans cette parole de Dieu. Parce que quand je regarde un petit peu géographiquement, si je m'intéresse sur l'efficacité de l'action de Jean le Baptiste, Jean le baptiseur, eh ben je m'aperçois que la Judée et Jérusalem, c'est un territoire de 20 km sur 30. C'est pas du tout tout Israël. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'on a des fonctions limitées. Et que nous sommes tous des personnes complémentaires. Et qu'heureusement, il y a plein de gens, plein de chrétiens qui composent l'Église, qui ont chacun leur propre fonction. Elles ont des domaines différents, mais elles peuvent avoir des domaines similaires, mais, vous voyez, limitées à une superficie. Il y a un maître mot dans la Bible. On est une créature, on est forcément limité. Il y a des personnes qui croient, lorsque l'on sera sauvé au royaume de Dieu, nous aurons une puissance illimitée, nous serons presque comme des dieux. Mais non! Même sauvés, même sans péché, nous serons limités. C'est le propre de la race humaine. Dieu l'a voulu ainsi. C'est d'ailleurs un peu rassurant quand tu es une créature par rapport à Dieu, je le dis. Et toutes les fonctions sont complémentaires et aussi belles entre elles. Autant de dignité pour toutes les fonctions. Puis bientôt. Non, parce qu'il faut voir clair. Hein. Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. L'être humain, même doté d'une fonction et qui impacte le fonctionnement de la terre et qui change le monde, est une toute petite créature. Même sauvé, il est une toute petite créature. Et puis la parole qui est citée de Jean le Baptiste, qui n'est pas digne de délouer la courroie de sa sandale, ça fait écho à une autre fonction. Parce que nous sommes vraiment dans le domaine de la fonction. C'est la fonction de l'esclave le plus humble qui est seulement là pour nettoyer les pieds des gens qui viennent du dehors dans la maison. Ce n'est pas très agréable comme tâche. Toujours se baisser, s'aplatir, nettoyer les crasses de l'autre, etc. Vous savez, surtout dans le Moyen-Orient, c'est très... Le fait de se prosterner, il n'y a plus que l'épaisseur de la tête. C'est pas grand par rapport à un homme debout, même un enfant. Ça veut dire qu'on n'est rien. On n'est pas grand-chose. Humilité et en même temps, honneur. C'est ce qui nous caractérise. Humilité et honneur. Nous avons du prix et en même temps, nous sommes une petite chose. Moi, je trouve que c'est rassurant par rapport à le fait que je sois une créature. Qu'est-ce qu'on retient de cette première lecture ? L'évangile, c'est l'évangile du règne de Dieu rendu proche. Et Dieu me met sur terre pour remplir une fonction, à l'exemple de Jean le Baptiste, hein, j'entends, hein, qui a bien rempli sa fonction. Il t'invite, je suis gentil, hein, je pense qu'il nous oblige, hein, il nous crée pour cela. N'empêche qu'il nous aime tellement qu'il te laisse la liberté. Tu peux très bien ne pas remplir ta fonction, mais évidemment... Tu rates la cible. Tu ne fais pas la volonté du Seigneur pour toi. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, si tu ne remplis pas ta fonction, que ta volonté soit faite sur la terre, tu ne le remplis pas. Donc tu pêches. Et il y a un problème. Mais voilà. Voilà. Par contre, interrogeons-nous chacune d'entre nous. Est-ce que je remplis là où les fonctions que le Seigneur m'a données ? Alors, quand je regarde notamment Éphésiens, je vois que au niveau des fonctions, on peut les... Très simplement, on peut diviser en deux domaines, mais c'est un seul domaine en réalité, c'est la gestion de la terre. Le premier domaine, c'est les fonctions qui concourent au développement, au fonctionnement juste du monde. Donc ce sont nos situations familiales, etc., juste aux yeux de Dieu, évidemment. Hein. Nos situations, donc père, mère, etc., tout ça. Mais aussi les métiers, toutes les tâches, et je tiens à le dire, parce que notre théologie ne dit pas tout à fait la même chose. Nous avons ripé, nous enseignons qu'il y a l'Église et le reste. Ben non, il n'y a pas l'Église et le reste. Il y a le monde. Dieu a tant aimé qui ? L'Église ? Non, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il envoyait son Fils unique, afin, vous connaissez, hein, afin de le sauver et non pas de le juger. Lisez Jean 3, 16, 17. Il n'est pas venu juger le monde, il est venu sauver le monde. Et il t'a mis sur terre pour participer, prendre ta part à l'Évangile. Prendre ta part de salut du monde, étant sauvé, recréé par Christ à la croix. Donc il y a cette première famille de fonctions qui sont magnifiques, qui sont 100% spirituelles. Voilà ce que dit la Bible. Il n'y a pas des domaines plus spirituels que d'autres. Non, tout est spirituel. Tout est affaire d'esprit de Dieu, d'obéissance à Dieu, de vie plénière divine, de talent que Dieu te donne. Et puis, il y a l'autre domaine de fonction, plus interne, il est vrai, à l'Église, à la communauté des hommes et des femmes donc qui louent le Seigneur parce qu'ils sont sauvés, ils se sont repentis, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Et donc, ces ministères, me dit Éphésiens, si je regarde le texte littéral, eh ben, ces ministères, écoutez bien, servent à réparer les luxations que vous connaissez en vous frottant au monde. Ce sont des ministères de restauration, de récupération, de guérison. Enfin, je ne sais pas comment on dit, vous voyez ce que je veux dire. Ça esquinte hein, de vivre un monde difficile, encore plus quand c'est la guerre, évidemment. Hein. Réparation. Et nous, malheureusement, dans notre théologie, notre religion, notre religiosité, on a donné une dimension sacrée à ce qui est de l'Église et puis une dimension profane, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'on fait vers le monde. Pas du tout, hein. Pas du tout. Et la Bible dit même le contraire, si je respecte les mots de l'Antiquité, enfin les mots de la Bible, hein, je ne fais pas la théologie là, hein, parce que la théologie change beaucoup de choses. On ne le voit pas, parce qu'il y a des termes religieux. Mais non, tout est sacré, tout est spirituel. Attention, je n'ai plus voir mes lettres. Heureusement que j'ai pris gros caractère, hein, parce que je peux descendre quand même. Mais voilà. Hein, tout est spirituel. Et les ministères de l'Église sont au service de ceux qui se battent, je pense ce terme-là, dans le monde. Ceci dit, c'est des tâches difficiles à l'intérieur de l'Église, c'est pas facile. Heureusement qu'il y a ces fonctions. Et puis donc, il y a les fonctions aussi de diffusion de l'Évangile. L'évangéliste, c'est une fonction spécifique, on le verra, hein, donc, dans le cadre de l'Église. Voilà la première lecture. Est-ce que vraiment tu es conscient de ça? L'Évangile t'indique que tu as été mis sur terre pour une fonction. Tu es responsable de sa mise en œuvre ou non. Et tu seras jugé là-dessus. Passons maintenant à la deuxième lecture qui, je le rappelle, donc rattache le verset 2 conformément à ce qui est décrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits, second 21. Qui rattache ce verset 2 au verset 1, c'est-à-dire qu'il va définir plus précisément l'objet de l'Évangile. Tout à l'heure, on a vu que c'était l'Évangile du règne de Dieu rendu proche. Eh bien, maintenant, on va voir un peu plus concrètement ce que cela veut dire. L'évangile du règne de Dieu rendu proche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, Marc, si je m'intéresse, si j'étudie la parole de Dieu pour ce qu'elle a, il fait ici une association, un mélange, mais c'est des négatifs, on ne mélange pas des textes de la parole de Dieu, on les met ensemble. Hein, mais met ensemble trois textes. Pas seulement Isaïe 40, chapitre 40, verset 3, mais aussi Exode 20, 23 et Malachie 3, 1. Il faut le savoir, ces trois textes. On n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais si on faisait l'étude de ces trois textes, et c'est très important, en fait, on s'aperçoit qu'au travers de ces trois textes que Marc a choisi, sans doute Pierre, hein, qui a enseigné ça. Tout à l'heure, je rappelle qu'il écrivait ce que disait Pierre. Donc, en fait, au travers de ces trois textes, ben, il y a quelque chose de très spécifique et fondamental. Dans les trois textes, il est question d'une voix, d'un messager mis devant le peuple qui le conduit pour le protéger, etc., et pour le conduire à bon port. Vous voyez, donc, un messager. Quand je regarde ces trois textes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le messager. Dans les trois textes. Par contre, dans Ésaïe, dans le texte d'Ésaïe, il y a une nouveauté qu'on va voir plus précisément maintenant. Mais auparavant, je voudrais vous dire pourquoi il a pris trois textes. Il a pris trois textes parce que dans la culture sémitique hébraïque, et on respecte parce que la Bible, c'est la Bible, hein, bon, c'est le peuple d'Israël qui était dépositaire de la Bible, donc c'est aussi dans sa culture, bien entendu, il faut respecter. Hein. Et bien en fait, pour qu'un témoignage, un enseignement soit vrai, déclaré valide, démontré valide, il faut au moins deux témoignages, donc trois. Donc il prend trois témoignages. Ensuite, c'est pas bête du tout. Mais ils sont pas bêtes, hein, évidemment, les écrivains bibliques, hein, évidemment. Tirons notre chapeau. Et puis derrière, le Saint-Esprit en plus. Hein. Mais ces trois textes, c'est comme par hasard, mais c'est pas par hasard. Le premier Exode, c'est Moïse, vu comme étant le premier prophète. Le deuxième, c'est Malachi. C'est moi qui fais les ordres. Malachi, c'est le dernier prophète. Vous retournez à Matthieu, vous tournez la page avant, c'est Malachi. Malachi. Dernier prophète. Et puis Ésaïe, qui est considéré chez les Hébreux, qui était considéré chez les Hébreux comme le plus grand des prophètes, et même, il était presque le titulaire. Vous savez, on disait Ésaïe, ça voulait dire prophète. Vous voyez. Donc, en fait, Marc, c'est pas anodin. Il dit, au travers de ces trois textes, ce qu'on va voir, ce qu'on a peu apprendre, eh bien, en fait, c'est toute l'histoire d'Israël, et même jusqu'à la fin du monde, parce que Malachi, au chapitre 3.1, parle du retour de Jésus-Christ et de la création de la nouvelle terre. Donc, c'est jusqu'à la fin de notre temps, de notre monde. Donc, c'est toute l'histoire du peuple de Dieu qui est embrassée au travers de ces trois textes. Donc, ce qu'il va nous dire, cet enseignement, ce fonctionnement qu'il va nous montrer, c'est comme ça que le peuple de Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Ésaïe, chapitre 40, verset 3. On fera 3 à 8. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Second 21. Commentons. Une voix crie dans le désert. C'est comme dans les deux autres textes, le messager devant la face du peuple, c'est Jésus-Christ. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. C'est un ordre. Chaque humain doit préparer le chemin de l'Éternel. Faire venir ce règne de Dieu sur terre. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur terre comme au ciel. Ce n'est pas une prière pour dire « Prions, Seigneur, reviens ». Nous attendons ta venue. C'est préparer le chemin de l'Éternel là où tu es, aujourd'hui. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. L'image du règne de Dieu. La terre fonctionne selon la volonté divine. Alors la gloire, la manifestation de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, proclame un message. C'est toujours notre messager, Jésus-Christ. Et tout à coup, cette nouveauté qui intervient comme un caillou dans la mare ou quelque chose d'inattendu. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il y a tout d'un coup cette deuxième voix qui est venue et qui répond et qui fait association avec la première voix. C'est la radicale nouveauté annoncée par Ésaïe 8 siècles auparavant et qui te montre le fonctionnement de l'application du plan du salut du monde sur terre. Le seul sauveur, le seul roi, c'est Jésus, mais il nous a sauvés, il nous recrée, il nous rééquipe, Il nous rend enfin aptes à pouvoir faire la volonté du Seigneur et à donc accomplir sa part de mission de salut du monde. Philippiens 2, versets 13 à 15. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Accomplis ta part de l'Évangile. » Lisez le premier chapitre, on l'a vu la semaine dernière, donc de Philippiens. « Accomplir sa part de l'Évangile tous les jours jusqu'à maintenant. » C'est remplir sa fonction reçue de Dieu. C'est remplir sa fonction de Dieu. Comme ici, que dois-je préclamer ? Alors, qu'est-ce qui répond cet homme qui s'associe à Jésus-Christ ? Il dit sa petitesse. Il dit que tout le peuple de Dieu est incapable de le faire. Il est comme l'herbe qui sèche, voyez ? Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Oui, la puissance de Dieu déposée dans ton cœur, cette parole de Dieu, elle te rend capable, grâce à lui, hein, de pouvoir remplir ta mission. Que nous dit donc cette association des trois textes ? Oui, Jésus règne sur le monde et veut donc appliquer ce règne sur la terre. Mais Dieu a choisi de s'associer les hommes pour qu'ils appliquent ce règne de Dieu sur terre. Ça ne fait que paraphraser Genèse 1, 26, 27, 28, l'homme est créé pour gérer la terre. Et il le fait grâce à Christ, au nom de Christ, pour Christ. Et Galates 2, 20 me dit, en effet, c'est comme il est marqué là, comme dit Esaïe, c'est Christ qui vit en moi. Vous connaissez ce verset ? C'est Christ qui vit en moi lorsque je vis, j'existe, et que je vis selon la foi qu'il m'a donnée. J'accomplis. Oui, mais en moi, c'est Christ qui agit au travers de son esprit. C'est Christ qui agit. Voyez. Je vous invite à prendre maintenant, dans l'évangile de Jean, comment Jean-Baptiste se définit. Donc au chapitre 1. Jean. L'évangile de Jean, c'est après Luc. Ces pages sont comme un missel. Alors c'est tellement fin que... Alors, au verset 19 et 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem, de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara sans restriction « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Non. Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le Seigneur, le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Alors, quand je lis ça, il faut expliquer, parce que quand on le lit vite, « Je suis la voix de celui qui dit dans le désert », on pense que Jean-Baptiste parle de lui-même. Mais non, ça n'a aucun sens. « Je suis la voix de celui pour dire parler de lui », non. Par contre, « Je suis la voix » moi, Jean le baptiseur, de celui qui crie dans le désert, c'était qui ? Le premier messager, la première voix, Jésus-Christ. Donc Jean le baptiste se proclame bien, il sait très bien qu'il est l'instrument, la bouche qui transmet, si vous voulez, le message, l'enseignement ici du Seigneur, ce salut. Et nous sommes tous pareils que lui. Nous sommes invités, je reviens à la première lecture de ce passage, à remplir nos fonctions respectives. Et nous sommes donc l'instrument du Seigneur pour répandre ce règne de Dieu sur terre, chacun dans son domaine spécifique. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas uniquement un message à délivrer tel quel. Non, l'évangile, c'est d'abord que toi, moi, nous tous, nous accomplissions nos fonctions respectives. Et l'Église, c'est le rassemblement des personnes qui accomplissent les fonctions venues du règne de Dieu sur terre dans un lieu donné. C'est ça, l'Église. Je voudrais maintenant vous donner une dernière raison qui appuie ces choses-là. En fait, mes amis, le mot que nous traduisons par évangile n'est pas celui de la langue grecque. Ordinaire, je m'explique. Le mot grec qui veut dire bonne nouvelle est un mot au féminin. Le mot qui est employé dans la Bible est un mot au neutre, évidemment du même domaine, mais au genre neutre, capital. Si je m'intéresse et si je respecte ce que dit la parole de Dieu, ça m'enseigne quoi ? Dans l'Antiquité, le masculin, c'est pour ça que nous avons des genres, le masculin, enfin c'était dans l'Antiquité, le masculin m'indique une volonté céleste qui doit venir descendre, c'est mes termes à moi, sur terre pour l'impacter dans son fonctionnement. Le féminin indique que effectivement la directive céleste, au travers de la créature qui le fait, va fructifier la terre pour son bénéfice. C'est d'ailleurs une très belle définition de la femme. Fructifier avec bénéfice, avec beauté, c'est vachement beau ça. Hein. Et le neutre, quand il existe le neutre c'est instrument par lequel la directive céleste va toucher la terre, par le masculin, l'homme, ou comment la directive va fructifier et donner du bénéfice au fonctionnement de la terre, la femme. Mais le neutre, c'est instrument. Eh bien, tenez-vous bien, si je lis le dictionnaire Le Grand Bailli, qui est l'ouvrage de référence de vulgarisation pour tous ceux qui font le grec, dans le monde francophone, un dictionnaire ultra complet, hein, il te dit quoi ? Eh bien, il dit que le mot to euangelion, c'est le mot neutre, à plusieurs sens, qu'on va terminer tout de suite en le disant, mais il a un sens notamment spécifique, unique et chrétien, qui ramène la bonne nouvelle à la personne de Jésus-Christ. C'est dans le dictionnaire. Le dictionnaire, le Grand Bailli. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cela ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Regardons le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe ? Le mot masculin, 3 fois seulement dans tout le Nouveau Testament, et il qualifie la fonction de celui qui annonce la bonne nouvelle, étant transformé lui-même, et qui sait parler et toucher les cœurs, et que les gens qui écoutent le message à bonne nouvelle, l'évangile, eh ben en fait, se convertissent. C'est un don du Seigneur, c'est sa fonction. 3 fois seulement. Timothée et le diacre Philippe, et la 3e fois, c'est dans la liste des dons, dans Éphésiens. 3 fois seulement. Le mot féminin, qui veut dire bonne nouvelle, alors bonne nouvelle qui apporte la paix, l'harmonie dans la cité. C'est tout à fait la vérité de l'évangile, de l'œuvre de Jésus-Christ. À votre avis, combien de fois il est marqué dans la Bible ? Si vous avez bien écouté, 0. Il n'est jamais repris dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a le mot neutre, apparenté, to euangelion, et non pas e euangelia, hein, to euangelion, qui note quoi ? L'instrument, qui met l'action sur l'instrument. C'est absolument capital. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour elle-même qui compte, même si elle est importante, parce qu'évidemment, ça nous dit quoi hein. Mais c'est d'abord la transformation de la personne qui met en œuvre sa recréation reçue à la croix par Christ. À partir de là, oui, l'évangile. Et l'apôtre Paul dira que l'évangile est une puissance de vie pour quiconque croit, juifs ou grecs, hein, dans la perspective du salut. Puissance de vie, ça veut dire qui te transforme. Et qui, à partir donc de cette nouvelle être que tu es, cette nouvelle naissance que tu as reçue, cet esprit que tu as reçu, cette fonction pour laquelle tu as été modelé, que tu mets en œuvre, eh bien oui, tu vas impacter le fonctionnement du monde de plus de règne de Dieu. C'est ça l'évangile. Et c'est ça que me dit le mot grec, to euangelion. Pas seulement la diffusion du message. D'abord, ta transformation mise en œuvre. Ton changement de vie mise en œuvre. C'est pour ça, mes amis, qu'il y a 4 évangiles. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. Que je lis Jean, Matthieu, Luc ou Marc. Oui, voilà. Et bien, en fait, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Oui, n'empêche que le Saint-Esprit a inspiré donc, les gens pour en faire 4 récits différents, mais qui disent la même chose. Pour montrer quoi ? 4, c'est le chiffre du fonctionnement de la Terre. La référence est sur les 4 vents, ils disent. Voilà comment fonctionne la Terre. Donc le chiffre 4, dans l'Antiquité, c'est le fonctionnement de la Terre. 4 évangiles, c'est le fonctionnement de la Terre. 4, multiplicité des fonctions. Et c'est pour ça, dans toutes les églises romanes de France, mais ça va jusque la Turquie, pour certains, oui, encore, hein, et bien, en fait, on a à l'entrée des églises, regardant le monde, toujours à l'entrée, vous avez ce qu'ils appellent le tétramorphe, c'est-à-dire Christ trônant en majuscule dans une mandorle de gloire, et tout autour, quatre symboles représentant les quatre évangélistes. Si tu es chrétien, si tu pratiques ton culte, si tu vas à l'église le dimanche, c'est que en réalité, tu es tourné vers le monde, parce que c'est tourné vers le monde, et tu transformes le monde, chacun dans sa fonction. Voilà ce que comprenaient les chrétiens de l'Occident, ou même jusqu'en Turquie, pendant les siècles après. Savez. Alors, rien ne vaut la Bible, hein. N'allons pas voir les sculptures, hein. Rien ne vaut la Bible. Mais quand même, c'est pour montrer la permanence du message. Puis c'est quand même agréable de savoir pourquoi il y a quatre évangiles. C'est un petit peu gênant quand même, qu'on ne sait pas expliquer. C'est un peu mystérieux quand même. Ben voilà, vous avez l'explication. Mais en même temps, ça nous responsabilise. Est-ce que oui ou non, je remplis ma ou mes fonctions que le Seigneur m'a données, ces talents qu'il m'a donnés de faire fructifier, voyez ? Voilà le commencement, les 8 premiers versets de l'évangile de Marc. Et je termine ma conclusion. Je vous avais dit que je l'ai réservé à le deuxième sens du mot commencement. Le voici. Si ça veut dire ce qui est en avant, ben ça veut dire évidemment qu'il y a quelque chose qui est derrière. Sinon, ça ne serait pas en avant. Et donc, elle est là, toute la problématique ou tout la réalité de l'évangile. Marc, il dit « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », c'est-à-dire qu'il présente pendant les 16 chapitres ce qu'a fait le Christ pour toi, ce qu'a fait le Christ pour nous, voyez, hein ? Oui, mais maintenant, deuxième phase, ce qui vient en arrière, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta nouvelle recréation ? Est-ce que tu vas mettre en œuvre à ton tour ce que tu as reçu pour faire avancer le règne de Dieu ? Voilà pourquoi il commence abruptement « commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Acte 1, à toi de jouer l'acte 2. Voyez ? Jésus, à la croix, a prononcé des paroles qui sont très souvent traduites « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'est « Pourquoi m'as-tu laissé en arrière ?» Il fait la même chose. Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il dit à son Père ? Vous remarquerez d'ailleurs que marquer « abandonné », c'est un non-sens. S'il s'adresse à son père, c'est qui sait que son père lui répond. Ayant un peu de bon sens. Pourquoi m'as-tu laissé en arrière ? Jésus est en train de dire, parce qu'en fait, c'est en vue de quoi ? Pourquoi, on peut le dire, la cause ou le but ? En vue de quoi t'es-tu mis en arrière ? Pour que moi, c'est Jésus, hein, j'accomplisse sur la croix le salut du monde. Hein, je libère les hommes du péché. Je fais disparaître le péché de ce monde. Et je recrée le peuple de Dieu pour qu'il te serve. Et puis Jésus dit, acte 2, si je me permets de dire, à son père, en vue de quoi ? Parlons simplement, à toi de jouer maintenant, remplis aussi ton rôle. Il faut le voir comme ça, cette phrase. Ne voyez pas comme un cri de supplication d'abandonner, mais non. Ce sont nos traductions, et c'est vieux, ça remonte à loin, ce sont nos traductions qui font dire ça. Mais il y a toujours eu, et alors là, énormément au premier temps de l'Église, parce que ce n'était pas le sens au premier temps de l'Église, alors là, toutefois, les gens disent, mais non, c'est un non-sens de parler comme ça. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit dans son évangile, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Jamais mon Père, nous sommes dissociés, mon Père et moi, nous sommes un, il le dit tout le temps. La théologie a même inventé la suspension, le point de suspension théologique, pour faire passer la théologie qu'on enseigne. Eh bien non, Dieu le Père n'a jamais abandonné son Fils. Il ne pouvait pas l'abandonner, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit comme promesse ? Quiconque fait m'obéit, fait ma volonté, je suis avec lui. Ben, Jésus, en tant qu'homme, puisque je lis Timothée, il m'enseigne que c'est Jésus, homme, qui était sur la croix et qui a accompli le salut, il faisait la volonté du Père. Il faisait la volonté du Père. Par contre, effectivement, Dieu... Le Père s'est comme mis en arrière pour laisser la place, si j'ose dire, à son Fils de remplir son rôle. Et bien aujourd'hui, c'est ça aussi pour nous. Dieu, quelque part, s'est mis en arrière. C'est le début de Genèse, hein, à la création. Hein. Le repos qu'on a chanté, mais c'est ça la réalité, hein, du repos. Hein. Dieu se met en arrière un moment pour laisser l'homme agir. À la fin des six jours, qu'est-ce que fait Dieu ? Quand il a créé l'humain, il se met en arrière. Il ne se repose pas, il n'était pas fatigué. Vous savez, il n'a pas besoin du septième jour pour se reposer, Dieu. Hein. Mais non, il s'est mis en arrière pour laisser la place à l'humain remplir sa fonction. Et bien, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Il s'est mis en arrière. Mais quand on dit qu'il s'est mis en arrière, Dieu est tellement aimant. Dieu nous aime tellement qu'il est aussi en nous. Vous lisez Philippiens, il dit que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire pour accomplir. Et vous allez dire après, selon son bon plaisir, on montre bien que c'est lui qui détermine la fonction que tu dois réaliser. On voit bien que ça vient de lui. Hein ? Voilà, donc relisons le commencement de l'évangile et méditons ça et positionnons-nous. Et puis peut-être réveillons-nous. Et sinon, remercions, même tout le temps, hein, remercions le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il nous aime. Il nous aime. Je suis à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, hein, c'est toujours l'autre. J'aime bien revenir ce verset. Il nous offre le repas. Il apporte même le repas. Il t'apporte de quoi vivre. Il donne sens à ta vie. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à la guerre, ben la Bible nous en parle, Jésus en parle. Quand viendra des moments difficiles, restez confiants en moi, l'Esprit Saint vous saisira. Et vous fera dire ce que vous devez dire. Vous vivrez ces événements difficiles et avec la paix du cœur. Nous l'avons peut-être déjà vécu lorsqu'on a connu, vous et moi, des catastrophes qui nous atteignent et qui, peut-être quand on frôle la mort, on a peut-être, certains ont connu ça, la paix, alors qu'en fait, ça allait très très mal. Soyons certains que le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen.